Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La Chine continue de faire face à un faisceau de demandes internationales sur les origines de la pandémie du coronavirus. Les pressions ne viennent pas uniquement des États-Unis mais aussi de l'Australie, du Japon, de l'ensemble Indo-Pacifique et de l'Union européenne. Tous demandent des comptes face aux éléments qui s'accumulent prouvant que le régime chinois a dissimulé au départ l'étendue de l'épidémie. Des pays africains sont également remontés contre Pékin et dénonce le traitement réservé à leurs ressortissants. C'est dans ce contexte international que se déroule avec plus de 2 mois de retard sur son calendrier habituel la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Ouverte vendredi, la réunion rassemble pas moins de 3000 représentants chargés de voter les législations et orientations stratégiques à venir, un rituel politique de la Chine rouge depuis les années 1990 qui va évidemment se pencher sur la façon dont la Chine a géré et peut-être résolu le problème de la Covid-19. L'économie repart très doucement dans la province du Hubei où se situait l'épicentre de la crise. Les migrants se trouvent dans une situation extrêmement précaire, donc possiblement explosive. Le régime veut repartir de l'avant au plus vite car pour la première fois depuis le tournant vers l'économie de marché, les Chinois doivent affronter un recul de la croissance. Regard avec nos invités, Alice Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Auteur de « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Cabestan, professeur au département de sciences politiques et d'études internationales de l'Université Baptiste de Hong Kong et directeur de recherche au CNRS, chercheur associé à l'Asia Centre et auteur de « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» point d'interrogation chez Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Avec cette réunion du Parlement, la reprise du calendrier politique, le pouvoir chinois affiche à l'évidence le retour à la normale de la situation en Chine. Que sait-on de la réalité ? D'abord, quant à la situation sanitaire, ensuite, sur le plan politique, en février, le retard initial de la réponse à l'épidémie et la mise au pas des médecins lanceurs d'alerte avait déclenché un déluge de critiques en ligne. Est-ce que l'heure des comptes a sonné, Jean-Pierre Cabestan, et que sait-on des dissensions internes derrière le rideau du secret entretenu par le Parti communiste chinois ?
Alors d'abord, concernant la crise sanitaire, la Chine fait face à une deuxième vague actuellement, qui est encore relativement minime ou sous contrôle. Mais enfin, il faut rester vigilant parce que au nord-est de la Chine, dans la province du Tilin, vous avez un certain nombre de cas qui sont réapparus. Et vous avez aussi des cas de Covid-19 qui sont réapparus à Wuhan même si leur nombre est relativement limité. Alors, cette deuxième vague n'a pas empêché la tenue, ça a été indiqué, de l'Assemblée nationale populaire, 2 mois et demi après la date initiale. La Chine veut montrer que maintenant elle est sortie de la crise, fondamentalement, et qu'on assiste à un retour à la normale et que les institutions fonctionnent comme avant la crise. Deuxième message important, c'est un message d'unité de la direction du Parti communiste à l'issue de cette crise du Covid-19, une crise qui a en fait mis en lumière des dissensions au sein du parti et une tentative ou une tentation de la part d'un nombre de responsables du parti d'utiliser cette crise pour affaiblir Xi Jinping et donc compromettre son maintien au pouvoir après la fin de son deuxième mandat en 2022-2023. Maintenant, il reste à savoir si cette offensive a réussi et si Xi Jinping a été vraiment affaibli. Pour l'instant, on voit bien qu'il est quand même encore le véritable numéro un de la Chine, même si les médias sont peut-être un peu moins prolixes à son égard et à l'égard de sa nouvelle philosophie politique, ce qu'on appelle la pensée de Xi Jinping. Mais l'Assemblée nationale est une occasion pour le parti et ses représentants locaux de célébrer l'unité de la nation, la force du parti et la force de ses institutions.
Alors, mettre en avant l'unité du parti, Jean-Pierre Cabestan l'évoquait, cette fragilisation de Xi Jinping aujourd'hui, peut-être aussi du parti communiste chinois lui-même. Alice Ekman, qu'est-ce qu'a souligné la crise de la Covid-19 quant à la nature du régime chinois ?
Plusieurs choses. Tout d'abord que le parti est omniprésent à tous les échelons de la société. On le savait, ce n'est pas dû à la crise, ce n'est pas nouveau. Mais la crise a rappelé que le parti est présent dans les hôpitaux, dans les universités, dans les écoles, dans les complexes résidentiels, C'est quand même une institution assez solide, hein, c'est plus de 90 millions de membres. Le parti a continué à recruter pendant la crise, y compris au sein du personnel médical. Et c'est un système de contrôle social et politique qui reste en partie façonné par l'ère Mao. On parlait tout à l'heure donc des complexes résidentiels, l'équivalent de comités de résidents ont été mobilisés pour diffuser les messages du parti, collecter les informations, renforcer ce que Xi Jinping appelle la surveillance mutuelle, surveiller les comportements des uns et des autres au sein de ces résidences. Et de manière générale, la rhétorique reste très rouge, très finalement d'influence, une propagande d'influence soviétique. Xi Jinping a rappelé qu'il s'agissait de mener une guerre populaire contre le virus. Et donc tous ces éléments m'amènent à dire que quoi qu'il arrivait aux dirigeants chinois, à Xi Jinping, il est très difficile de voir quelle est finalement la réalité des tensions internes au parti compte tenu de la forte opacité qui continue à entourer cette institution. Mais de mon point de vue, quoi qu'il arrivait à Xi Jinping, il est peu probable que cette structure, que cette institution puissante qu'est le Parti communiste chinois s'effondre du jour au lendemain, compte tenu à la fois de ce maillage géographique très dense qui est humain, donc surveillance humaine, mais aussi technologique, puisque le Parti communiste chinois a investi massivement depuis plus de 15 ans maintenant dans les nouvelles technologies et continue à le faire aujourd'hui avec le déploiement notamment d'outils dits de villes intelligentes, de smart cities, c'est-à-dire on a vu à l'occasion de la crise le déploiement de caméras de vidéosurveillance capables de mesurer la température, le déploiement de différentes applications pour smartphones qui permettent aux institutions de sécurité publique en fait de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, y compris de surveillance. Donc c'est un maillage géographique très dense, c'est une façon de communiquer particulière, c'est une structure qui aussi communique beaucoup et on l'a vu aussi avec le cas du docteur Li Wenliang, c'est-à-dire vous évoquiez tout à l'heure les nombreux commentaires en ligne qui se sont déversés, commentaires critiques. Et en effet nombreux concernant la gestion de la crise, notamment le sort qui avait été réservé à ce docteur initialement lanceur d'alerte et qui avait été rappelé à l'ordre par les autorités et puis qui est quelques semaines plus tard décédé. Mais la propagande chinoise a progressivement réajusté le tir, si je puis dire. Alors on ne sait pas si c'est avec efficacité ou pas parce qu'il faudrait avoir les tendances d'opinion que l'on n'a pas en Chine aujourd'hui de manière assez fine. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont érigé ce docteur comme un héros national qui a travaillé à la gloire du parti. Aujourd'hui, avec cette réunion, clairement, on assiste déjà à une campagne de communication, un exercice de communication assez fort qui va marquer que Xi Jinping appelle la victoire définitive ou la victoire totale du Parti communiste chinois sur le virus. Et il renforce à cette occasion la personnalisation de cette victoire, puisqu'il est évoqué que c'est un commandement et un déploiement personnel de Xi Jinping face au virus. Donc certes, il existe un ressentiment au sein d'une partie de la population chinoise, notamment vis-à-vis de la façon dont le parti a géré la crise. Et il existe certainement, même si on a très peu de visibilité, un ressentiment au sein des cadres du parti qui, pour beaucoup, ont dû faire face à des mouvements de recadrage politique et idéologique très strict depuis 2013, hein, des mouvements de formation, des mouvements d'apprentissage des paroles de Xi Jinping, des mouvements de sessions de critique et d'autocritique entre collègues. Donc tout cela fatigue réellement une partie des cadres du parti. Mais de là à ce que ce ressentiment s'exprime, il y a un écart compte tenu du risque d'expression de ce ressentiment dans le contexte actuel où tout le monde se surveille.
Alors il y aura probablement, mais je parle sous votre contrôle, Jean-Pierre Cabestan, une mise au pas, peut-être, à l'occasion de cette Assemblée nationale populaire de tous ceux qui expriment leur mécontentement. Ce qu'on voit, c'est que l'actuel leader chinois Xi Jinping est finalement très, très différent de son prédécesseur Deng Xiaoping, dont la stratégie était finalement plutôt modeste. Avec Xi Jinping, on est sur un registre grandeur de la Chine, refus de toute critique, discours intransigeant. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui va se passer au cours de cette Assemblée nationale populaire sur le plan politique et sur le plan de la stratégie à venir, étant entendu que la question de la croissance en Chine est vraiment ce qui a permis au Parti communiste chinois de tenir. Cette croissance aujourd'hui est mise à mal. Jean-Pierre Cabestan.
Oui, bien sûr, je crois qu'il y a pas mal de sujets qui vont être évoqués qui sont évoquées par cette Assemblée. D'abord, elle a lieu après un premier trimestre qui était très négatif, hein, puisque vous avez eu une récession de près de 7% de l'économie chinoise, jamais vue depuis 1976, une augmentation du chômage urbain qui est beaucoup plus importante que les chiffres officiels veulent nous le dire. On estime ce chômage urbain maintenant à environ 20% de la population active. Donc, et c'est un chômage qui touche en particulier, comme vous l'indiquiez, les migrants, hein, environ 300 millions de personnes en Chine, qui s'ajoutent aux 400 ou 500 millions de personnes qui ont le droit de cité, qui ont un véritable droit de cité dans les villes, qui ont ce qu'on appelle un rouco urbain. Donc là, il y a des tensions sociales qui sont plus fortes, et le parti a mis en place déjà, même avant la réunion de cette assemblée, des moyens de contrôle de la population beaucoup plus étroit, notamment un groupe dirigeant de coordination de la sécurité et de la paix sociale qui va resserrer les contrôles sur le corps social. De même, le ministère de la Sécurité publique a fait de la sécurité politique. Là, je fais allusion à ce que disait tout à l'heure Alice, c'est-à-dire la sécurité politique étant la loyauté au parti et la loyauté à ses dirigeants, en particulier Xi Jinping. Maintenant, cette assemblée est en train d'avaliser un certain nombre de documents et de réformes qui ont été pendant longtemps laissés à l'écart. On sait que depuis 2013, le parti a mis en place tout un programme de réformes économiques, structurelles, qui ont été pour partie oubliées parce que Xi Jinping insiste beaucoup sur la domination du secteur public, sur le contrôle des secteurs stratégiques de l'économie par l'État, le parti-État, et donc ne veut pas lâcher trop la bride sur le secteur privé, ne veut pas non plus que les mécanismes de marché jouent un rôle trop dominant dans l'économie. Et là, on remet en chantier ces réformes sous la pression des circonstances et sur la pression de cet environnement économique qui est beaucoup moins favorable. Et donc là, ça va être un sujet de débat intéressant, à mon avis, à l'Assemblée nationale, parce que vous avez des intérêts contradictoires dans la machine étatique entre les partisans du secteur public et puis ceux qui veulent favoriser le secteur privé et les mécanismes de marché. Et là, vous avez aussi des oppositions entre des provinces qui sont très dépendantes du secteur d'État. Hein. Je pense par exemple au nord-est de la Chine et puis des provinces comme le Guangdong ou même le Baiyangtze qui sont beaucoup plus attachées à l'expansion du secteur privé. Alors l'Assemblée nationale, c'est à la fois les réunions de l'Assemblée nationale, c'est aussi c'est à la fois un symbole d'unité du pays, du parti, mais aussi c'est une tribune qui peut donner lieu à des débats plus ou moins ouverts et surtout qui laisse la voix aux provinces. Et donc là, c'est l'occasion pour les provinces de faire entendre leurs récriminations et les problèmes auxquels elles font face au quotidien. Alors la crise du Covid-19, évidemment, a aiguisé ces problèmes et ça sera intéressant, c'est intéressant de voir comment chaque province essaie de régler à la fois ses problèmes de développement économique, enfin, redémarrage économique, et puis de stabilité et d'ordre social, parce que c'est une des préoccupations premières du gouvernement.
Alors, en tout cas, si cette Assemblée nationale populaire est là pour montrer la fin et la victoire sur le virus, ce qu'on peut relever, c'est que au lieu des 2 semaines habituelles, la session actuelle ne devrait pas durer plus de 7 jours. Et puis, autre signe que le combat n'est pas achevé, la session se tient pratiquement à huis clos. La presse s'étant invitée à suivre l'essentiel des débats en ligne et les rares journalistes autorisés à couvrir l'événement le feront et le font après test de dépistage et mise à l'isolement dans l'attente du résultat. Donc Alice Ekman, finalement, le coronavirus marque d'une certaine manière un tournant dans les orientations politiques et économiques de la Chine.
Pas un tournant, mais une accélération de certaines priorités. Et je pense en premier lieu à la priorité technologique. parce que déjà depuis plus de 2 mois, la presse officielle chinoise et plusieurs représentants, y compris de think tank, parlent d'un plan de relance par ce qu'ils appellent les nouvelles infrastructures. C'est-à-dire que, au contraire du plan de relance qui avait été de l'économie, bien sûr, qui avait été lancé au lendemain de la crise économique et financière de 2008-2009, qui passait en premier lieu par un investissement dans les infrastructures traditionnelles, notamment de transport. Aujourd'hui, la Chine mise plus que jamais sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire que 9 secteurs ont été identifiés pour renforcer les investissements dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, différents types d'investissements qui passent notamment au niveau provinciaux et avec des partenariats publics-privés. Il faudra vérifier les chiffres qui ne cessent de fluctuer, mais clairement, les priorités sont identifiées. Parmi ces 9 secteurs, on retrouve la 5G. Alors, la Chine souhaite, là, dans les prochains mois, encore plus mettre le paquet, si je peux me permettre, c'est-à-dire étendre son réseau 5G sur l'ensemble de son territoire, à renforcer le développement des centres de données, de l'Internet des objets, de la blockchain. Enfin, vraiment, on a là un plan de relance par les technologies qui, à mon avis, va donner un avant-goût du 14e plan quinquennal qui est en cours d'élaboration et qui couvrira la période 2021-2025. Et c'est une orientation à prendre en compte dans le contexte international actuel, alors que, comme vous le savez, les tensions technologiques entre Washington et Pékin sont très fortes, très profondes, notamment autour du réseau 5G de Huawei, mais pas uniquement, et progressivement, alors que la Chine se positionne et cherche à se positionner de plus que jamais comme un leader technologique, les rivalités technologiques entre la Chine et les États-Unis pourraient s'étendre à d'autres technologies, dont celles que j'ai mentionnées. Mais au-delà de cette réunion qui donne un avant-goût sur le plan quinquennal, sur les orientations économiques et les priorités économiques à venir pour les prochaines années, nous sommes dans un calendrier particulier où la Chine, plus que jamais, le Parti communiste chinois va chercher à se positionner comme victorieux sur la crise du Covid-19 à tous les niveaux. Il faut bien se rappeler que 2021, demain sera l'année du centenaire du Parti communiste chinois, centenaire qui sera célébré très largement à travers tout le pays, encore davantage que le bicentenaire de la naissance de Marx, qui a été célébré en mai 2018 et qui a mobilisé la quasi-totalité de la fonction publique à l'appel de Xi Jinping, mais aussi il y avait eu, il y a 70 ans, la création de la RPC, la République populaire de Chine, à l'automne 2019, qui était déjà très spectaculaire. Donc tous ces grands raouts, on pourrait dire rouges, scandent finalement le calendrier politique chinois, à défaut d'avoir des élections, il y a des grandes commémorations, des grandes célébrations, et c'est à prendre en compte aussi dans les annonces qui vont être évoquées, dans la manière dont le pays se présentera vis-à-vis de sa population nationale, mais aussi vis-à-vis d'une audience internationale. Alors que s'observe une compétition renforcée entre modèles de gouvernance ou entre systèmes politiques. Cette tendance, on la voyait déjà depuis 2013, puisque Xi Jinping parlait clairement, explicitement, à huis clos devant les cadres du parti, de supériorité du système socialiste sur le capitalisme et puis de la victoire ultime de ce système sur celui développé par ce qu'il considère être, de manière générale, les Occidentaux. Donc, plus que jamais, on voit bien aujourd'hui une stratégie d'une guerre de communication qui entoure la façon dont la Chine gère le virus, mais aussi la façon dont la Chine sort de cette crise. Elle va se positionner comme victorieuse, plus que jamais, même si la réalité est beaucoup plus complexe et comme l'a souligné Jean-Pierre Cabestan, il y a encore de nombreux défis économiques, alors que l'économie chinoise reste fortement dépendante des exportations et notamment de la demande américaine et européenne. Mais une chose est certaine, elle va se positionner comme victorieuse et surtout, au niveau international, se positionner comme le meneur de la sortie de crise. Alors, ça agace un nombre croissant de pays, mais d'autres pays continuent à suivre les positions chinoises ou en tout cas accueillir certaines initiatives à bras ouverts.
Alors, la Chine, meneur de la sortie de crise, dans un contexte international où l'on voit la méfiance s'être installée, une hostilité au régime chinois qui se situe à un niveau sans précédent finalement depuis la répression sanglante de Tiananmen en 1989. À l'époque, des sanctions avaient été prises. Alors, est-ce que la Chine est un pays particulièrement inquiet aujourd'hui? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Jean-Pierre Cabestan et Alice Ekman, après le journal. À tout de suite.
Le débat africain. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Chine à l'occasion de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui s'est ouverte vendredi. Une session qui rassemble pas moins de 3000 représentants chargés de voter les législations et orientations stratégiques à venir. Nous retrouvons nos invités. Alice Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, et Jean-Pierre Cabestan, professeur au département de sciences politiques et d'études internationales de l'Université Baptiste de Hong Kong et directeur de recherche au CNRS, chercheur associé à l'Asia Centre et auteur de Demain la Chine, démocratie ou dictature, point d'interrogation, paru aux éditions Gallimard. On l'a dit dans la première partie de l'émission, la Chine se présente aujourd'hui ou veut se présenter comme le meneur de la sortie de crise du corona. Ce qu'on voit, Jean-Pierre Cabestan, c'est que à l'extérieur, une certaine méfiance s'est installée. L'hostilité au régime chinois se situe aujourd'hui à un niveau sans précédent depuis la répression sanglante de Tiananmen en 1989. À l'époque, des sanctions avaient été prises. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine, jusqu'à présent, ne répondait pas aux attaques qui se font contre elle. Désormais, elle le fait. Quelle lecture faire de cette agressivité de Pékin aujourd'hui, Jean-Pierre Cabestan ?
Alors, la première chose que je dirais, c'est que cette agressivité n'est pas complètement nouvelle. Elle remonte à cette affirmation de puissance qu'on observe depuis 2008, qui s'est consolidée avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Évidemment, à l'occasion de la crise du Covid-19, la Chine s'est montrée à la fois généreuse et agressive. Et c'est ça qui a troublé le message et l'a rendu souvent confus, incompréhensible, et que finalement, ce message s'est retourné contre le messager lui-même. Il y a peu de gens qui en acceptant l'aide chinoise, vont commencer à remettre en cause les fondements de leur système politique. Donc, en fait, je pense qu'il y a des causes intérieures à cette agressivité, qui viennent des difficultés qu'a rencontré le Parti communiste avec sa société en janvier et février. Et donc il y avait un besoin d'alimenter le nationalisme, d'unir le corps social chinois autour du parti en attaquant l'extérieur et en se présentant comme une victime de l'hégémonisme américain et des attaques de l'administration Trump. Alors que, je dirais, c'est les Chinois qui ont ouvert le feu. D'abord en critiquant les démocraties et après en attaquant les États-Unis, en soupçonnant d'être à l'origine de cette pandémie. Là, c'est un peu l'arroseur arrosé, mais d'une certaine manière, on voit bien que l'administration de Xi Jinping ne s'intéresse pas tellement au soft power, à la puissance 12 et à l'image que la Chine peut avoir à l'extérieur. Ils s'intéressent beaucoup plus d'abord à la survie du régime et puis à l'extension de leurs intérêts économiques et stratégiques autour du monde, même si cela fait un peu de casse et si cela leur attire des inimitiés.
Alors on reviendra bien sûr sur la question de l'extension des intérêts économiques. Alice Ekman, est-ce qu'on peut dire que la Chine est aujourd'hui un pays inquiet ?
D'un point de vue international, elle ne se présente pas comme inquiète. Bon, vous allez me dire, ça paraît évident et ce ne serait pas dans leur intérêt, mais la communication internationale ainsi, enfin, n'est pas du tout ni dans la remise en cause, ni dans l'introspection. Et depuis 2016, notamment, Xi Jinping a appelé les cadres du parti à projeter une image de confiance en soi, notamment ce concept des quatre confiances, c'est-à-dire confiance dans son propre système politique, dans ses propres théories, dans sa voie de développement et dans sa culture. Alors ça, c'est bien sûr du jargon officiel, mais la Chine aujourd'hui suit toujours ce cadre de confiance en soi et l'idée générale qui se dégageait déjà depuis plusieurs années à Pékin, l'atmosphère générale, c'est de dire non seulement les forces occidentales hostiles, les États-Unis n'ont aucune leçon à nous donner, mais maintenant il est temps de riposter systématiquement aux critiques et aux leçons qu'on nous donnerait. Il ne faut plus hésiter à retourner la critique et à donner des leçons. Ça, c'était en substance les lignes, les consignes qui étaient données. Plus précisément, Xi Jinping parlait de corriger systématiquement les commentaires et les critiques qui ne seraient pas en accord avec la juste ligne du socialisme. Enfin bon, c'est encore du jargon, mais tout ça pour vous dire que Il y a peut-être une inquiétude interne, notamment une inquiétude sur la situation économique, hein, puisque quels que soient les chiffres, qui forcément seront plus bas que ce initialement prévu par les autorités centrales avant la crise, la population ressent réellement ce ralentissement. Elle le ressentait déjà avant, d'autant que c'est une population qui est habituée à une croissance, dans les décennies précédentes, à une croissance à près de chiffres. Donc il y a certainement des inquiétudes, et puis des inquiétudes liées à la structure du système politique et la structure du parti unique. Mais je ne pense pas que dans à la fois la communication, mais aussi dans les décisions et les comportements nationaux et internationaux, la Chine va montrer quelques signes d'inquiétude ou de remise en cause ou d'ajustement qui pourraient montrer une forme d'introspection.
Jean-Pierre Gabessan.
Oui, je dirais le régime peut-être pas inquiet, mais il est quand même paranoïaque, comme tous les régimes dictatoriaux. Et ce qui l'inquiète véritablement, c'est de connaître un avenir semblable à l'Union soviétique. C'est-à-dire que finalement, le régime s'effondre pour des raisons internes, parce que les gens croient plus au communisme, les gens progressivement prennent leur distance à l'égard du parti État. Et alors, on n'en est pas là en Chine, mais en fait, c'est quand même passé quelque chose en février, qui a montré une espèce de malaise dans la société par rapport à un parti qui cachait des choses, qui n'a pas bien fonctionné, et qui lui-même a reconnu ses erreurs en termes de gouvernance et ses dysfonctionnements. Alors ça montre une capacité d'adaptation, de réaction, mais ça montre aussi qu'il n'est pas si solide que ça lorsque la population devient plus critique, et ça veut dire que la gestion de la société, la relation État-société devient plus difficile à gérer qu'auparavant.
Alors, la Chine agressive, en tout cas, on voit aussi depuis quelques semaines Pékin se montrer plus offensif dès lors qu'il s'agit de défendre ce qu'il considère comme ses intérêts vitaux. J'aimerais qu'on aborde la question de la mer de Chine méridionale. On a vu la Chine profiter de ce que la pandémie mobilise, les énergies à la fois régionales et internationales, pour renforcer ses positions dans la zone disputée, en particulier des îles Paracel. Le 3 mars, un bâtiment des gardes-côtes chinois a coulé un navire de pêcheurs vietnamiens dans le secteur de ces îles Paracel, donc disputé entre Pékin et Hanoï, et occupé par les Chinois depuis 1974. Et puis, on a vu, toujours en mars, les Chinois installer deux centres de recherche sur des récifs situés dans les îles Spratlys, là aussi zone revendiquée par les Philippines et le Vietnam. Très forte tension dans la mer de Chine méridionale, et on voit Pékin profiter de ce que les regards sont ailleurs pour avancer ses pions, Alice Ekman.
Oui, ces dernières semaines, on a souvent analysé les deux événements que vous mentionnez en mars comme une volonté de Pékin de saisir une opportunité stratégique dans le contexte de crise de la Covid-19 et donc qui aurait accéléré son activisme et ses ambitions en mer de Chine méridionale. Je ne suis pas sûre de mon point de vue. En fait, c'est plutôt business as usual, c'est-à-dire que la Chine continue à avancer ses pions comme elle a déjà fait depuis plusieurs années. La crise n'entraîne pas une réévaluation à la baisse des ambitions diplomatiques et maritimes chinoises. Le bon sens aurait voulu nous faire dire que avec cette crise qui est sanitaire, qui est médicale, qui est de communication, mais qui est aussi économique, la Chine n'aurait plus les moyens de ses ambitions, que la Chine serait moins active aussi, pas uniquement dans la région, mais au niveau des organisations internationales. C'est tout le contraire qui apparaît. Les ambitions restent fortes. À mon avis, l'activisme chinois va continuer à se prolonger dans les prochains mois. Et même lorsqu'on regarde d'autres projets, par exemple le projet Nouvelle Route de la Soie, on considère que la Chine n'aurait plus les moyens de promouvoir ce projet très coûteux, notamment la dimension des infrastructures dures, les ports, autoroutes, routes qui coûtent très cher à la Chine, avec un retour sur investissement qui n'est pas assuré. Mais les Nouvelles Routes de la Soie, c'est aussi une dimension immatérielle, tout ce qui est coopération technologique, e-commerce, promotion des normes et des standards, création de nouveaux tribunaux d'arbitrage commerciaux, etc., etc. Et donc, à mon avis, même si sur certains projets, la Chine n'aura plus les moyens de ses ambitions en termes d'infrastructures dures de transport, elle continuera à promouvoir finalement un activiste qui cherche à la positionner comme une puissance normative qui fasse référence dans certains pays. Alors pas dans tous, mais cet activisme, cette ambition va se prolonger à mon avis.
Alors Jean-Pierre Cabeston, sur la mer de Chine méridionale, après ça on va parler de Taïwan.
Alors, rapidement, sur la mer de Chine méridionale, tout à fait d'accord avec ce que disait Alice. Ce que je rajouterais, c'est que les Américains sont de plus en plus présents également, et que donc les risques d'incidents entre les bateaux chinois et la marine américaine deviennent de plus en plus évidents. Pour l'instant, on reste dans une zone grise. La Chine impose son fait accompli sur la mer de Chine du Sud à ses voisins, notamment au Vietnam, aux Philippines et à la Malaisie, qui ont aussi des revendications en mer de Chine du Sud. Mais elle est dans un face-à-face avec les États-Unis. Donc pour l'instant, elle sort indemne, tout en essayant d'accroître sa pression sur les bateaux américains. Mais il y a quand même un risque de dérapage à l'horizon. Et c'est ça qui peut inquiéter, parce que depuis le début de l'année, les Américains ont multiplié ce qu'on appelle les FONOPS, hein, les Freedom of Navigation Operations, dans la mer de Chine du Sud, les opérations de liberté de navigation, pour assurer la liberté de navigation dans une mer qui, pour vous donner une image, est aussi grande que la Méditerranée et que la Chine revendique à 90%, alors que ce sont des eaux dans l'ensemble international. Les États-Unis sont très intrusifs dans le sens où ils approchent des îlots ou des atolls qui sont occupés par la Chine, beaucoup plus que la marine française ou la marine australienne, hein, qui respecte la zone de 12 000 marins autour de ces îlots, même si ce sont des élévations qui n'ont pas le statut d'île, tandis que les Américains rentrent dans le périmètre indiqué, ne respectant qu'une zone de sécurité de 500 mètres. Hein. Donc, évidemment, ça énerve les Chinois qui essaient de les repousser, tout en évitant d'utiliser des moyens militaires ou létaux, si vous voulez, pour les repousser. Mais les risques d'incidents vont croissant. Et ces risques d'incidents, pour faire la liaison avec Taïwan, se sont aussi apparus de manière plus fréquente dans le détroit de Formose, hein, parce que la marine américaine y croise beaucoup plus que précédemment, et les avions américains aussi font des opérations de repérage dans cette partie du Pacifique occidental beaucoup plus souvent qu'auparavant.
Alors, au-delà de cette question juste à propos de Taïwan, on peut signaler que la présidente Tsai Ing-wen a officiellement inauguré mercredi dernier son deuxième mandat de 4 ans. Et Taïwan qui agace particulièrement Pékin, Alice Ekman, pour avoir réussi à gérer la crise du corona, qui lui permet précisément d'attirer les regards du monde entier. Dans un rapport de l'Institut chinois de relations internationales contemporaines, un think tank affilié au ministère de la Sécurité d'État, présenté le mois dernier aux plus hautes instances dirigeantes du pays, dont le président Xi Jinping, il est fait état d'un scénario noir dans lequel la Chine devrait se préparer à une confrontation armée avec les États-Unis. Est-ce à dire que la Chine aujourd'hui prend au sérieux le risque d'être exposée à une hostilité généralisée susceptible de remettre en question sa politique diplomatique et ses investissements à l'étranger ? Alice Ekman.
Oui, vous avez raison. La question taïwanaise est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines pour au moins 3 raisons. Comme vous l'avez mentionné, la gestion de la crise sur l'île, qui est perçue par certains comme un modèle, voire un contre-exemple à la gestion en République populaire de Chine. Deuxième chose, sa participation à la diplomatie du masque, avec des envois aussi significatifs de matériel, y compris vers l'Europe. Et puis aussi son absence subie à l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas récente, mais que la crise a rappelé au grand public. Il faut aussi rappeler que pour Pékin, le grand renouveau de la nation chinoise, selon l'expression officielle consacrée, donc ce grand renouveau voulu par Xi Jinping, passe par Hong Kong, qui de facto est sur territoire chinois, même si les tensions y restent vives, et Jean-Pierre il en connaît mieux la situation que moi sur ce point, mais notamment ce renouveau passe par Taïwan. Et donc c'est important de se rappeler que Taïwan est considéré à Pékin comme une priorité nationale. Ces dernières années, déjà, il était peu probable que l'option militaire soit privilégiée à court et moyen terme côté chinois, alors que la présence militaire américaine reste forte dans la région, mais aussi que les tensions restent très vives dans le détroit, et la Chine a d'autres outils sur sa palette, on va dire, pour essayer de promouvoir ses intérêts et sa position vis-à-vis de Taïwan. Et donc je relativiserai finalement le scénario catastrophe du CICIR que vous avez mentionné, de l'Institut, même si bien sûr les relations internationales et la géostratégie, la dimension humaine existe et on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'une escalade des tensions. Pékin et Washington ont des positions diamétralement opposées finalement sur tous les enjeux de la région. On a parlé des tensions mer de Chine du Sud, on parle de Taïwan, on pourrait aussi parler de l'avenir de la péninsule coréenne avec en Corée du Nord une opposition formelle de la Chine à tout changement de régime. Donc on a vraiment là des différents géostratégiques majeurs entre les États-Unis et la Chine.
Et entre Pékin et Washington précisément, Jean-Pierre Cabestan, il n'y a pas qu'une guerre des mots, vous l'évoquiez, les Américains sont de plus en plus présents dans la région. J'aimerais revenir sur la cérémonie et le discours d'investiture de la présidente de Taïwan, qui a donc rappelé mercredi les quatre principes qui, selon elle, doivent caractériser les relations interdétroits, c'est-à-dire entre Taïwan et la Chine continentale, la paix, la réciprocité, la démocratie et le dialogue. Elle n'a pas évoqué le principe « un pays, deux systèmes » qui régit précisément les relations entre la Chine et Hong Kong et qui, selon Xi Jinping, devrait également s'appliquer à l'avenir aux relations avec Taïwan. La présidente entend, elle, préserver un statu quo pacifique et stable. Qu'est-ce que l'on peut dire de la pression exercée par Pékin depuis le début, finalement, de la crise du corona aujourd'hui sur Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan?
La pression sur Hong Kong s'est renforcée. Je crois que le Xi Jinping a essayé de profiter du Covid-19 pour prendre en plus Hong Kong sous son contrôle direct à travers son représentant dans le territoire, hein, qui est le chef du bureau de liaison de Pékin, qui s'appelle Lo Wenying, et puis à travers ce bureau des affaires de Hong Kong et de Macao à Pékin, qui est dirigé par un proche de Xi Jinping, un dur, qui veut vraiment faire avancer l'agenda de Pékin à Hong Kong, en mettant au pas tous les partis favorables à la démocratie, ce qu'on appelle le camp pan-démocrate, en accélérant les procédures judiciaires à l'égard de tous les mouvements de protestation, les responsables des protestations de l'automne dernier, et en avançant aussi ses pions concernant l'adoption d'une loi de sécurité nationale à Hong Kong. Alors pour l'instant, on espère que cette loi ne sera pas adoptée avant les élections législatives de septembre. Mais Pékin a très peur que ces élections législatives se soldent par une victoire du camp pan-démocrate. Il y a une certaine incertitude concernant à la fois la tenue de ces élections, mais aussi leur issue. Et donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que les représentants de Pékin à Hong Kong tirent les ficelles derrière le gouvernement officiel de Hong Kong, qui est dirigé, comme on le sait, par Carrie Lam. Et là, le risque que prend Xi Jinping et ses représentants ici, c'est d'accroître trop fortement cette pression. Et donc, une fois le territoire sorti définitivement de la crise du Covid-19, c'est ce qui est en train de se produire actuellement, eh bien, le mouvement de protestation reprenne de vigueur et recrée une situation comme celle à laquelle on a assisté l'automne dernier et qui donc est sans issue parce que ni Pékin ni Carrie Lam n'est prêt à faire des concessions à ce mouvement.
Merci Jean-Pierre Cabestan. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences politiques et d'études internationales de l'Université Baptiste de Hong Kong et directeur de recherche au CNRS, chercheur associé à l'Asia Centre et auteur de Demain, la Chine, démocratie ou dictature, point d'interrogation, paru chez Gallimard. Merci aussi à Lise Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne et auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Laurent Salerno. Demain, nous évoquerons l'évolution de la relation entre la Chine et l'Europe au milieu du bras de fer entre Pékin et Washington. À demain.